Le roman d'un brave homme, chapitre 5. Le collège. Après le conseil de famille, qui s'était réuni à la mairie sous la présidence du juge de paix, mon subrogé tuteur et mes oncles eurent chez nous une longue conférence avec ma mère. On connaissait sa tendresse pour moi, et l'on craignait qu'elle ne voulût me garder près d'elle à tout prix. La courageuse femme étonna tout le monde par la promptitude et la virilité de ses résolutions. Déjà, sans en rien dire, elle s'était entendue avec Basset, qui reprenait le chantier, les marchandises en magasin, une coupe de bois sur pied, et qui louait notre maison avec promesse de vente. Pour lever l'hypothèque dont elle était grevée, on comptait sur le zèle d'un honnête huissier, notre ami, chargé du recouvrement de toutes nos créances. Tout compte fait, et les trois quarts du mobilier vendu, il resterait probablement un actif de 25 à 30 000 francs. C'était assez pour une veuve modeste et tranquille. Elle avait déjà retenu dans la ville haute une petite maison de 200 francs par an. Catherine ne voulait pas se séparer de sa maîtresse, mais Catherine, au prix dont elle se contentait, était plutôt une ressource qu'une dépense. J'aurais coûté beaucoup plus cher. La nourriture et l'entretien d'un garçon de mon âge, élevé comme je l'étais, eût entamé le petit capital, qu'il fallait conserver intact. C'était comme un argent sacré. Ne représentait-il pas toute une vie de travail? D'ailleurs, on voulait me cacher les petits sacrifices qu'on allait faire et les privations dont les deux dignes créatures se régalaient à l'avance. L'internat m'éloignait et m'empêchait de voir. Il coupait court à mes observations. Il ménageait une transition entre l'aisance d'hier et la gêne de demain. On accepterait donc le bienfait de la ville si mon petit cœur d'enfant gâté ne se révoltait pas absolument. Ce petit cœur se montra ferme, lui aussi. J'affectais même un amour du changement, un goût pour le nouveau, une vaine curiosité qui n'était certes pas en moi. Après la séparation éternelle qui m'avait laissé tout meurtri, je souffrais cruellement à l'idée de ne plus voir ma mère tous les jours. La réclusion n'avait jamais été de mon goût. J'adorais le grand air. Je plaignais les internes, d'autant plus que 100 fois ils m'avaient conté leur misère en me chargeant de leur commission. Mais une considération d'ordre majeur dominait tout. J'avais toujours présente à l'esprit la parole de monsieur le maire. Il ne fallait pas que le petit coûtât un sou à ses parents. Voilà pourquoi je me constituais pensionnaire à la rentrée d'avril, avec une résignation comprise pour de la joie. Depuis le principal et Madame d'Or jusqu'à Lombard, le portier, depuis les grands élèves de seconde jusqu'au bambin de la 7e préparatoire, tout le monde me fit bon accueil. On me connaissait, on m'aimait, on me plaignait. Ce fut à qui me rendrait le collège agréable, ou du moins tolérable. Si j'eus quelque peu à souffrir avant d'être acclimaté, la faute n'en est pas aux personnes, mais aux choses, qui ne pouvaient changer du jour au lendemain pour mes beaux yeux. La salle d'études, le dortoir, le réfectoire, la cour de récréation, tout m'étonnait et me choquait. Élevé par mes parents comme un poulain dans un pré, j'avais contracté des habitudes fort innocentes à la maison, mais qui, dans un internat bien réglé, devenait subversive, pour ne pas dire criminelle. Ainsi, j'apprenais mes leçons en lisant à haute voix et en me promenant à grandes enjambées. Quel scandale si j'avais troublé par de telles façons le silence et l'immobilité de l'étude. Chaque fois que j'avais terminé un devoir, je m'en récompensais aussitôt en poussant une course sur les bords du canal, ou en gaulant des noix au jardin, ou en faisant quelques culbutes dans la sciure du chantier. C'était la nature elle-même qui m'avait enseigné ce moyen de reposer le cerveau par la fatigue des muscles. En étude, quand le devoir est fini, il faut fermer le cahier sans rien dire et commencer une autre besogne du même genre, qui ne repose pas du tout. Et nous avions des études de 3 heures. À 12 ans, j'étais condamné à demeurer 3 heures de suite assis sur un banc de bois. Mes devoirs faits, mes leçons apprises, sans dire un mot à mes voisins, sans même avoir la compagnie d'un de ces excellents livres que mon père laissait à ma discrétion dans sa bibliothèque constamment ouverte. Tout volume qui n'est pas compris dans le programme de la classe est un livre de lecture, c'est-à-dire un livre interdit. J'ai vu de malheureux internes dévorer leur dictionnaire, faute de mieux, comme les percherons privés de paille s'en prennent au bois de leur mangeoire. L'ancien couvent dont on avait fait le collège était un bâtiment énorme, 3 fois plus vaste que de raison. On aurait pu y loger tous nos professeurs, qui, vivant au milieu de nous, avec leurs familles, se seraient occupés de notre éducation. Mais personne n'y avait songé. Nous-mêmes, les enfants, nous connaissions à quelques pas de notre grand dortoir, glacial en hiver, étouffant en été, incommode et malsain dans toutes les saisons, 50 cellules proprettes, commodes, faciles à meubler, où l'on eût joliment dormi, chacun chez soi, sans se gêner les uns les autres. Mais, dans l'internat tel qu'il était, et tel qu'il est encore presque partout, il fallait ronfler en commun. Éveillés au son du tambour, sur les 5 heures du matin, nous faisions notre toilette à tour de rôle devant de petits lavabos qui versaient, avec leurs minces filets d'eau froide, un minimum de propreté pour la figure et pour les mains. Mon père m'avait enseigné une pratique en grand usage chez les compagnons de son temps. Il me plaçait debout dans un cuveau, devant une planche de bois chargée d'une cuvette. Je prenais une éponge dans la main droite, un savon de Marseille dans la gauche, j'arrosais et frottais successivement mes cheveux courts, mon visage, mon cou, mes épaules et le reste, jusqu'aux talons, si bien qu'en moins de 2 minutes, j'étais nette des pieds à la tête, et il ne restait plus qu'à me sécher. Cette toilette ne coûtait ni plus de temps, ni plus d'eau, ni plus de savon que celle du collège. Malheureusement, elle était incompatible avec la vie en commun, et je dus en faire mon deuil, quitte à me rattraper chez nous tous les dimanches. Ce que je supportais le mieux, contre toutes les prévisions de ma mère, ce fut le changement de nourriture. La cuisine des collèges n'est jamais bonne, et ne peut pas l'être, étant donné le prix dérisoire de l'internat. Mais elle n'est jamais absolument mauvaise. J'avais des goûts simples, j'aimais le bœuf bouilli, les choux, les haricots, les légumes communs. Je crois d'ailleurs qu'un bon estomac est le plus indulgent des critiques. Si donc je souffrais quelquefois à l'heure des repas, c'était ou dans mon amour-propre ou dans certaines fibres du cœur que j'avais un peu trop délicates. Je ne comprenais point, par exemple, qu'on nous servît cet affreux mélange de vin et d'eau qui porte le doux nom d'abondance. Nos maîtres avaient donc bien mauvaise opinion de nous. Les apprentis eux-mêmes, à la maison, se versaient librement à boire et trempaient leur vin à leur guise. Je m'étonnais du rationnement des vivres et de ces parts coupées d'avance, comme pour limiter l'appétit des uns et conseiller le gaspillage aux autres. Je ne m'accoutumais jamais à voir jeter le pain. Mon père m'avait appris à le respecter comme une chose sainte, mais surtout, j'enrageais comme un petit forcené quand je voyais mes camarades faire les dégoûtés, selon l'usage de tous les internats, dénigrer ce qu'on nous servait, crier aux œufs couvés, aux haricots mangés de verre, déblatérer contre l'empoisonneur, c'est-à-dire le cuisinier, et taxer d'avarice un homme aussi honnête et aussi généreux que notre excellent principal. À part ces petites misères, le réfectoire était un lieu que je fréquentais volontiers. Mais je haïssais franchement, cordialement, la cour de récréation. Elle était laide, elle était nue, elle était toujours poudreuse ou fangeuse, selon la saison, entourée de murs décrépits, fermée par une porte à gros clous et qui sentait la geôle. Elle était trop petite pour 30 élèves, et, dans l'intérêt du bon ordre et de la surveillance, on l'avait séparée en 2 par une sorte de palissade à claire-voie. Cependant, le terrain ne manquait pas. il y en avait à revendre autour de la grande masure. Nous apercevions même de loin les grands arbres d'un jardin qu'on disait magnifique, mais qui était réservé au principal. Je demandai un jour à notre jeune maître d'études pourquoi dans ce jardin les internes n'entraient jamais. Il répondit sans hésiter « Mais mon enfant, parce qu'ils saccageraient tout, c'est pour la même raison qu'on n'a pas planté d'arbres dans la cour. » Cette révélation m'étonna fort. J'étais entré dans bien des jardins, et je n'en avais pas saccagé un seul. J'avais eu plus d'un arbre à ma merci, et je ne m'étais jamais avisé de les détruire. Il est vrai qu'en ces temps-là, je n'étais pas un interne, et il paraît que les internes sont, par définition, des êtres malfaisants. Dans notre cour étroite, vide et désolée comme un préau de prison, nous n'avions pas assez de place pour courir à bride abattue. Tous les jeux violents, tous les exercices du corps y étaient contraints et gênés. Moi qui avais besoin de mouvement pour détendre mes muscles et chasser les légions de fourmis que l'immobilité de l'étude amassait dans mes jambes, je tentai vainement d'entraîner mes petits camarades. Ils avaient déjà pris le pli. Ils se promenaient deux par deux, trois par trois, plus sérieux que des notaires et comme fatigués de la vie. Et dire qu'on aurait été si bien dans les rues, qu'on aurait fait de si belles parties de bar à l'ombre des tilleuls sur la place de la mairie. Dire qu'en un quart d'heure, sans trop courir, je pouvais arriver au bois du Lézard, où la mousse autour des vieux chênes est aussi douce qu'un velours. Tout cela était bel et bon la semaine dernière. Le principal, les professeurs et les maîtres d'études trouvaient naturel qu'un externe jouât des jambes et remplît ses poumons de l'air des champs. Mais l'internat commande un autre régime. Ma mère avait le droit de venir m'embrasser dans un coin du parloir à l'heure des récréations. Pourquoi m'était-il défendu de courir l'embrasser chez elle? Cela ne se pouvait pas. Cela violait le règlement. Cela m'aurait dissipé. Le jeudi, après déjeuner, nous faisions une promenade, ou plutôt une marche de 3 ou 4 heures par les routes. Sur deux rangs, les grands en tête et les petits à la queue, sous le regard ennuyé d'un maître d'études, on allait n'importe où, sans rien voir, sans rien apprendre, sans s'intéresser à rien, et l'on revenait de même. Nous détestions cette corvée, dont on ne rapportait qu'une provision de fatigue, de poussière et d'ennui. Un tel régime eut sur moi des effets imprévus. Mes devoirs ne furent plus si bien faits, ni mes leçons si bien sues. Mes compositions elles-mêmes témoignèrent d'une émulation refroidie. Je ne fus plus premier régulièrement et à coup sûr. On perdit l'habitude de me citer comme un élève exemplaire. Ma bonne humeur, mon activité, ma santé exubérante changèrent de nom. On les qualifia de « légèreté incorrigible ». Quelques réponses un peu vives aux réprimandes de nos gardiens me firent une réputation de caractère difficile. On me punit très justement, puisque je troublais l'ordre et que je m'écartais de la règle. Je connus le supplice abrutissant du pensum, qui gâta pour un temps ma jolie écriture. On me priva de récréation, j'en fus bien aise. Il fallut la privation de sortie pour me mater. Je ne vivais que le dimanche. Courir à la petite maison que les reliques de notre bon temps emplissaient de la cave au grenier, embrasser Catherine, sauter au cou de ma pauvre maman, qui se faisait belle pour moi, me laisser dorloter jusqu'à midi, déjeuner de bon appétit en tête-à-tête avec elle, sortir ensuite à deux, courir les rues, visiter nos amis, ou, si le temps était très beau, arpenter les champs et les bois, goûter sur l'herbe, causer à cœur ouvert, faire de grands projets pour l'avenir. Voilà les occupations qui remplissaient cette heureuse et trop courte journée. Quelquefois, nous partions dès le matin pour Launay, où les pauvres bons vieux, en grand deuil comme nous, semblaient renaître à notre vue. Maman la France improvisait des festins inouïs. Nous faisions des débauches de framboises et des orgies de fromage à la crème. Mais je me régalais surtout par les yeux. J'étais si content de revoir les petits coins de l'antique maison, de saluer amicalement le chien, le chat, la vache et le cochon aussi. Il fallait que, bon gré mal gré, mon grand-père me fît chaque fois les honneurs de tout son domaine. Je m'emparais de lui, je le traînais au jardin d'à côté, au jardin d'en bas, au verger, à la vigne, à la chènevière. Et les deux femmes nous suivaient, tandis que ma tante Joseph ou une voisine très capable veillait la potée sur le feu. Dans ces jours de fête, il y avait toujours un moment où, malgré soi, l'on venait à parler de celui qui n'était plus là, et nous mettions en commun quelques larmes. Mais cela même était bien bon. Comme il fallait que je fusse rentrée à 9 heures précises, on dînait tôt. Nous nous mettions en route à 8 heures. Les grands-parents nous faisaient un bout de conduite après avoir bourré toutes mes poches et pendu à mon bras un panier de provisions. Jugez de ce qui se passa dans mon cœur la première fois qu'un de nos maîtres me jeta ces 3 mots « privé de sortie ». Je ne dis pas que la punition fut injuste ou excessive. Je venais de rosser un de mes camarades à la sortie du réfectoire. C'était le jeune Auguste Poulard, mauvais élève et médiocre sujet en tout genre. Il m'avait appelé « mes semblables ». Et ce rappel du sobriquet de mon pauvre père, 2 mois après sa mort, me parut non seulement odieux, mais impie. Mon voisin, entendant le mot, me dit vivement à l'oreille « Appelle-le fils d'usurier !»« Non, répondis-je, je ne sais pas quel homme est son père, mais il ne m'a rien fait, c'est au fils que j'en ai. » Dès que nous fûmes dans la cour, je marchai sur Poulard et je lui criai « À nous deux !» Il se mit sur la défensive en appelant au secours. Mais quand on l'arracha de mes mains, j'avais eu le temps de lui allonger une 30 de coups de poing, et sa figure était en sang. L'honnête homme qui me punit eût peut-être été moins sévère s'il avait connu mes raisons, et dans tous les cas, M. Dor aurait vu dans la provocation une circonstance atténuante. Mais, comme je ne pouvais me défendre qu'en accusant, je préférais subir ma peine. 6 mois plus tôt, j'aurais tout raconté. Mais le collège, en même temps qu'il me donnait les défauts qui lui sont propres, commençait à m'enseigner les qualités qui ne s'apprennent que là. Les internes de l'Université de France ne reçoivent aucune éducation de leurs maîtres. Ils ont des proviseurs ou des principaux qui administrent, des censeurs qui surveillent, des professeurs qui enseignent, des maîtres d'études qui font la police. Personne n'est chargé de leur dire ce qui est bien ou mal, convenable ou choquant, de bonne ou de mauvaise compagnie. Mais, vivant en commun, dans un frottement perpétuel, ils arrivent à se façonner les uns les autres. Je ne dis pas à se polir, car l'interne, vu dans la cour, a la surface assez inculte. Il est sale, il est débraillé, il a mauvais ton, il dit de gros mots, il parle des femmes comme s'il n'avait ni mère ni sœur. Il taquine des professeurs qu'il sait capables et des maîtres d'études qu'il sait malheureux. Il se venge de sa captivité en détruisant le matériel de la prison. Il maraude au jardin, chipe dans la cuisine ou l'office, en vertu de cet axiome scolaire que chiper n'est pas voler. En promenade, il joue de mauvais tours aux boutiquiers et lance des colibés aux passants. Il est plus gamin quelquefois que les enfants des rues. Mais, si vous grattez la surface, vous trouvez tout un fond de qualité virile que le collège développe et qui, sauf accident, ne se perdent jamais. C'est le goût du libre examen, c'est un instinct très vif de l'égalité, c'est l'amour de la justice, le mépris de la faveur, c'est l'esprit de corps, le sentiment de la solidarité. C'est surtout une loyauté à toute épreuve, une profonde horreur de l'hypocrisie et de la délation, une répugnance invincible pour tout ce qui est faux, vil et bas. Or, ces qualités se conservent toute la vie, tandis que les défauts propres à l'internat se corrigent presque toujours avant la fin des études, et infailliblement 6 mois après. Lorsqu'on s'occupera de réformer notre système pédagogique, je crois que l'internat sera condamné pour ses rigueurs inutiles. mais je voudrais qu'on en sauvât quelque chose. Le repas de midi et la récréation en commun. » Deux externes qui ont suivi les mêmes cours pendant un certain nombre d'années ne sont pas, à proprement parler, camarades. Ils ne sont que condisciples, ce qui est assez différent. Si l'un vient au collège en casquette et l'autre en chapeau, l'un sur de gros souliers crottés et l'autre dans le coupé de madame sa mère, on les habituera peut-être à se tutoyer du bout des lèvres, mais ce ne sera pas pour longtemps. Il faut qu'ils aient mordu au même pain, mangé le même bœuf et la même salade, souffert le froid et le chaud dans la même cour, pris part aux mêmes jeux et aux mêmes exercices, échangé des billes, des idées et des coups. Un coup de poing loyalement donné rapproche les enfants plus qu'il ne les sépare. Témoin mon camarade Auguste Poulard. Il me sut plus de gré de ma discrétion qu'il ne garda rancune de ma violence. Cet héritier de 80 000 livres de rente et le pauvre petit boursier que j'étais firent une excellente et solide paire d'amis. Lorsqu'il sut que son père, homme influent, conseiller général et candidat à la députation, parlait de moi comme d'un mauvais garnement, indigne des bontés de la ville, il s'accusa pour me disculper et plaida si chaudement ma cause qu'il réussit à me faire inviter, pour toutes les vacances, au château de Larcy. Je fus sensible à ce bon procédé, mais, outre que je n'étais pas équipé pour faire figure dans un château, il n'y avait pour moi de vraies vacances que chez les vieux parents de Launay. Le soir même de la distribution des prix, après avoir porté mes livres à la maison et mes couronnes au cimetière, je partis avec ma mère et Catherine pour le village tant aimé. On nous y attendait pour 2 mois. Nos chambres étaient prêtes, nos occupations réglées d'avance. Il était entendu que ma mère réparerait le linge et ferait les travaux de couture, que Catherine aiderait ma grand-mère à la cuisine, au fournil et à la lessive. Quant à moi, j'avais le bon lot. Papa la France s'était mis en tête de m'enseigner le plus noble métier du monde, le sien. Et il y réussit à merveille, car, grâce à ses leçons, je devins, et je suis encore aujourd'hui, paysan jusqu'au bout des ongles. La réclusion, la promenade traînante dans la cour et l'air confiné du collège avaient légèrement altéré ma santé. On me trouvait grandi, mais moins large des épaules et moins coloré du visage. La vie en plein champ, le fanage des regains, la vendange, le maniement de la bêche et de la pioche, la récolte des pommes de terre, la façon des fagots et des bourrées, eurent bientôt renouvelé mon sang appauvri. Ajoutez à ces exercices les grandes marches sous bois avec les bûcherons et les charbonniers, les longues stations dans les prés au milieu du troupeau avec le berger du village et les brillantes parties de quilles sur la place en compagnie de mes cousins et de 20 autres polissons, mes amis. Vous comprendrez comment 2 mois de séjour à Launay était pour moi le plus puissant des toniques et le plus délicieux des remèdes. Mon uniforme à boutons dorés était resté dans le camphre. En revanche, j'usais tant de blouses que ma mère n'avait pas le temps de les raccommoder. Dans cette vie active, mais réglée, nous faisions une part raisonnable au travail. Mon maître m'avait donné des devoirs à écrire, des leçons à apprendre. J'y consacrais les jours de pluie, les heures de fatigue physique. Je logeais dans ma tête au moins 40 fables de La Fontaine à temps perdu. Et le premier lundi d'octobre, quand l'heure de la rentrée sonna pour moi et pour tant d'autres malheureux, mon ancien professeur ne me félicita pas seulement de ma belle santé, mais de mon orthographe, de ma mémoire et de ma latinité. Il dit devant moi au principal « C'est singulier. Voici un enfant qui a fait plus de progrès en 2 mois de vacances qu'en 3 mois de collège. » « C'est peut-être, ajoutai-je timidement, que je ne suis pas un oiseau de volière. » Monsieur Dor me tira l'oreille en souriant et dit « Mauvaise tête, tu la regretteras plus tard, cette pauvre vieille prison. » En attendant, je la supportais de mon mieux. Je retrouvai avec plaisir mes anciens camarades et je fis connaissance avec les nouveaux. Un nouvel externe, plus jeune et beaucoup plus petit que moi, vint se jeter à mon cou en sortant de classe. C'était Jean Bonafigue, le gamin provençal que mon père avait sauvé avec son bon petit singe de sœur. Je le revis souvent au collège, et quelquefois chez ma mère ou chez ses parents. Monsieur et madame Bonafigue étaient passablement logés dans un des bâtiments neufs de la fabrique. Ils avaient de bons meubles, payés par la compagnie d'assurance, et ils ne semblaient pas malheureux. Ils me firent toujours grand accueil, et je me serais mis plus vite à les aimer s'ils avaient été moins bruyants, moins démonstratifs et moins différents de tous ceux que je connaissais. Et puis, ce scélérat d'accent me donnait sur les nerfs. Comme la cuisine épicée de madame Bonafigue bouleversait mon estomac tourangeau. Leur fille, Barbe, avait 2 ou 3 dents de plus qu'à notre première rencontre, mais elle portait encore les cheveux en broussailles, et elle n'embellissait pas. Du reste, elle était la première à rire de sa laideur, qu'elle outrait par 100 grimaces comiques. On ne s'ennuyait pas avec elle, et nous faisions de bonnes parties. Je promenais souvent les jeunes Bonafigue dans les chemins et les sentiers de Launay. Ils me faisaient plus souvent les honneurs de la fabrique, que je connus bientôt dans ses moindres détails. Mais lorsque par hasard, au milieu de nos jeux, nous voyions apparaître le grand corps anguleux de Monsieur Simoneau, avec son nez en bec de corbin et ses favoris rouges, nous nous serions fourrés dans des trous de souris. Mes petits amis tremblaient comme moi devant le très disgracieux seigneur de la faïence, quoique leur père en dît le plus grand bien, et que personne n'eut le droit d'en dire aucun mal. Chapitre 6. Le nouveau principal. Au printemps de 1844, il y avait 4 ans que mon père était mort et que j'étais interne au collège. On s'accordait à me trouver très grand et très robuste pour un garçon de 16 ans moins 2 mois. Mes professeurs me tenaient en estime, mes camarades m'aimaient bien, et personne ne me disputait plus le premier rang dans la classe. Ma mère, toujours en deuil, n'était redevenue ni très gaie ni très forte, mais elle semblait assez bien portante, et grâce aux bons amis qui avaient arrangé nos affaires, elle ne manquait de rien. Basset avait soldé la maison. Presque toutes les créances étaient rentrées. 30 ou 35 000 francs placés sur l'État nous faisaient un revenu net de 1 600 francs. Tout était donc pour le mieux dans notre petit coin du monde, lorsqu'à la fin du premier semestre, un événement imprévu agita le collège et la ville entière. Notre vieux principal, M. Dor, demanda sa retraite et l'obtint. 60 ans d'âge, 40 années de service et beaucoup de rhumatismes accumulés à l'ombre de notre commune prison lui commandaient le repos. Il avait amassé de quoi vivre assez largement dans son pays natal, un coin du Finistère où le beurre coûtait 8 sous la livre et le sang d'huître 4 sous. Madame Dor, bretonne comme lui, avait un petit domaine là-bas et des parentés honorables. Elle comptait y marier à quelque Aubereau ses 2 filles un peu attardées, mais instruites, agréables encore, et nullement rhumatisantes. Ce départ n'émut pas seulement la colonie de fonctionnaires dont M. Dor était le doyen. Elle inquiéta les familles bourgeoises, qui toutes avaient eu ou devaient avoir affaire à l'excellent principal. Parmi les élèves eux-mêmes, c'est à peine si 2 ou 3 indisciplinés, comme Auguste Poulard, affectèrent la joie et parlèrent de délivrance. Les professeurs, les maîtres d'études, la plupart de mes camarades et moi, nous déplorions la perte de l'homme juste, intelligent et bon, qui avait gagné tous nos cœurs par ses qualités personnelles. La vue du successeur qu'il installa lui-même avec sa bonne grâce accoutumée nous étonna, sans nous consoler. Autant M. Dor était net, correct et digne avec ses petits favoris blancs, son faux col droit et sa redingote ajustée, autant M. Lutzelmann nous parut inculte et farouche. Cheveux longs, barbe touffue, paletot sac et chapeau de feutre mou, le tout fort propre mais d'une simplicité outrée, lui donnait un faux air de paysan du Danube. Il était de Colmar, marié à une grande strasbourgeoise, blonde et maigre, et père de 4 enfants, dont une fille dans l'âge ingrat. L'accoutrement de toute la famille était ridicule, et son accent barbare. On racontait à demi-voix que notre nouveau principal était une créature de M. Victor Cousin. Ce philosophe l'avait trouvé mourant de faim dans une école industrielle. Il l'avait employé à traduire des auteurs allemands et lui avait donné pour salaire une mission de 3 années en Angleterre, en Prusse, en Autriche et en Suisse. Pendant 3 ans, ce voyageur gorgé d'or à raison de 250 francs par mois avait assommé les bureaux de ses mémoires indigestes, paradoxaux et quelque peu révolutionnaires, que les commis de M. Villemain ne lisaient plus. Le jour où cet olibrius alsacien, sa tâche terminée, retomba sur les bras d'un ministre qui ne l'avait pas choisi, on s'aperçut qu'il était assez pauvre humaniste, à peine bachelier, et qu'il avait pourtant aussi bon appétit qu'un docteur en théologie. Dans l'heureux monde des fonctionnaires, les esprits originaux sont les plus difficiles à placer. M. Lutzelmann avait donc, malgré ses services, quelques droits à mourir de faim, si son ancien patron ne fût venu à la rescousse. Victor Cousin se montra d'autant plus généreux qu'il pouvait l'être sans bourse déliée. Il fit donner à son ancien collaborateur un collège obscur, en assez mauvais point et médiocrement noté par les inspecteurs généraux. Voilà du moins la légende qui courait dans les rues. Certains bavards, bien ou mal informés, ajoutait que l'homme au paletot sac avait carte blanche pour les réformes et les expériences, et que, si le conseil municipal le laissait faire, nous verrions prochainement du nouveau. C'est sous l'impression de ces idées que les maîtres et les élèves prirent congé de M. Dor. La cour des messageries était pleine, petits et grands voulaient serrer les mains de l'honnête homme qui s'en allait. M. Lutzelmann et ses 3 filles assistèrent bravement à cette explosion de regrets qui ne leur promettait rien de bon. Lorsque la diligence eut disparu au coin de la Grand-Rue et du boulevard circulaire, le maire et le nouveau principal se dirigèrent ensemble vers le collège. M. Morand n'en sortit pas avant la nuit. Le lendemain, vers 9 heures du soir, les petites vacances étant finies, je repris mélancoliquement le chemin de ma prison. Ce n'était jamais sans douleur que je levais le lourd marteau de la porte. Je fus donc agréablement surpris en voyant que le marteau, la porte et le portier lui-même avaient disparu. 3 de mes camarades se tenaient sur le seuil, les bras ballants, les yeux écarquillés, tout ahuris de l'aventure. 1/4 sur 20, chargé de fruits confits et de beurre salé. Il nous apprit que M. Lutzelmann avait donné la porte à repeindre et offert 1 mois de congé à ce cerbère de Lombard. Ce n'est pas tout. En gagnant le vestibule de la maison, je m'aperçus qu'on avait ôté la barrière entre les grands et les petits. Les 2 cours n'en faisaient plus qu'une, et 10 fois, 20 fois plus grande, car on pouvait circuler librement entre le mur d'enceinte et le couvent sécularisé. Le jardin même, cet impénétrable jardin du principal, avait sa grille ouverte à 2 battants. « Entrons-y !» dit un grand. « Non, » répondis-je, « ce serait lâche, puisqu'il est ouvert. » Et tous furent d'avis qu'une escapade, héroïque avant Pâques, serait absolument indigne aujourd'hui. Et nous prîmes le chemin du dortoir, où une nouvelle surprise nous attendait. Notre jeune maître d'études, celui qui écrivait des vers et qui s'était fait plus tard un certain nom dans la littérature, attendait que nous fussions au complet. Il nous réunit tous autour de lui, et après nous avoir montré que la place de son lit, au bout de la grande salle, était vide, il nous dit « Le nouveau principal, sachant que j'ai besoin de travailler le soir, a bien voulu me donner une chambre. Mais cette faveur m'est accordée à titre provisoire et sous réserve de votre bon plaisir. Il dépend de vous que je perde ou que je garde la libre disposition de mon temps. Je vous supplie donc de prouver par votre conduite que l'on peut abolir sans inconvénient la surveillance du dortoir. » Tous les élèves lui répondirent à la fois. Il n'y eut qu'un cri pour affirmer que nous étions d'honnêtes garçons et que nous ferions désormais notre police nous-mêmes. « Si vous tenez parole, reprit-il, ce n'est pas à moi seul que vous rendrez service, et j'ai tout lieu de croire que vous serez récompensé. » Personne ne saisit alors le sens caché de cette promesse, mais un esprit de discipline volontaire soufflait dans la maison. C'est à peine si deux ou trois gamins abusèrent un peu de leur liberté. Ils furent rappelés à l'ordre et vivement. Le lendemain matin, les plus grands internes, deux élèves de seconde, trouvèrent sur leur pupitre une invitation à déjeuner le jour même avec monsieur et madame Lutzelmann. Ils revinrent à l'heure de la classe, enchantés du principal et de sa famille, et tout émerveillés du jardin, où l'homme au paletot-sac les avait promenés en fumant sa pipe de porcelaine. Deux autres grands furent priés à dîner, et l'internat tout entier y passa en moins d'une semaine. Si bien que le sixième jour, nous avions tous fait connaissance avec le principal, sa famille et son intérieur. Et quand madame et mademoiselle Lutzelmann vinrent se promener dans notre cour, en pleine récréation, chacun de nous les aborda avec autant de politesse que si la scène s'était passée dans un salon. Elles nous conduisirent elles-mêmes au fond de leur jardin, où nul élève ne s'était encore aventuré sans invitation. Le principal nous attendait. Il loua la discrétion dont nous avions fait preuve et nous pria d'être moins réservés à l'avenir. Ce paradis terrestre ouvert à tout venant était un rare et curieux spécimen de la vieille horticulture française. On y voyait des pièces d'eau dormantes encadrées dans la pierre de taille, des charmilles épaisses, des faunes moussues grimaçant dans leurs gaines, des ifs taillés en pyramide, un grand cèdre du Liban et quelques-uns de ces arbres qu'on ne cultive plus, comme le pommier cerise, dont les petits fruits rubicons pendent au bout d'une longue queue. De beaux vieux espaliers couvraient les murs d'un potager tiré au cordeau, où les plates-bandes de fleurs encadraient les carrés de légumes. Tout cela semblait un peu négligé depuis que le farouche Lombard, concierge et aide-jardinier, était en villégiature. Les fils du principal prirent la bêche et le râteau. Leur exemple nous gagna tous, et ce travail nous amusa autrement que la toupie et les billes. Bientôt, les professeurs, les maîtres d'études, les externes, les parents de quelques élèves eurent plaisir à nous regarder faire, ou même à faire comme nous. Le principal et sa famille, bonnes gens sans prétention, accueillaient si cordialement tout le monde que ce coin réservé, peu connu, fit concurrence au jardin public. Ma mère y venait quelquefois. Madame Bonafigue y amenait la petite. Les jeunes personnes les mieux élevées, mademoiselle Simoneau, la sœur de mon ami Poulard, les trois filles de monsieur Fondrin, y apportaient leurs tapisseries ou leurs crochets. Et cette invasion de la bonne compagnie modifia en peu de jours le ton et la tenue du peuple écolier. Monsieur Lutzelmann profita de la vogue pour organiser au collège un enseignement auquel personne n'avait jamais songé. Il alla voir monsieur André, le meilleur jardinier de la ville, homme de mœurs patriarcales et d'esprit bienveillant, comme tous ceux de son métier. « J'ai besoin, lui dit-il, d'un professeur d'horticulture, qui soit en même temps très capable et très désintéressé, car le budget du collège ne me permet pas de lui donner un centime pour prix de ses leçons. La voie publique me conseille de vous offrir l'emploi. L'acceptez-vous ? »
« Très volontiers, répondit le bonhomme.
J'ai peu d'ouvrages et je ne vends pas grand-chose. C'est le temps qui me manque le moins. » Ce cours gratuit a changé la face du pays et commencé la fortune du père André. Les héritiers du digne professeur possèdent aujourd'hui une des pépinières les plus florissantes du monde entier, et l'arrondissement est peuplé d'amateurs des deux sexes qui greffent eux-mêmes leurs rosiers, taillent leurs arbres à fruits, bouturent leurs camélias et hybrident leurs bégonias sans demander conseil à personne. Le travail du jardin supprima par enchantement les habitudes de pillage et de gaspillage que l'internat avait propagées parmi nous. On dirait que la terre inspire à ceux qui la cultivent un esprit de conservation effréné. Plutôt que de cueillir une fraise en cachette, nous en aurions ajouté 100 si nous l'avions pu. Il s'agissait d'en faire un grand panier pour la table du principal. Et cet événement, attendu avec impatience, n'arriva que la première semaine de juin. Madame Lutzelmann reçut notre ambassade avec un bon gros rire de maman. « Vous êtes très gentil, nous dit-elle, mais nous ne pourrions jamais tout manger à nous seuls. Il y en a assez pour tout le collège, et vous feriez mieux de nous inviter demain au réfectoire. Les fraises ont meilleur goût quand la nuit a passé dessus. Nous donnerons le sucre et nous apporterons notre plat. » Ce fut une affaire d'État. L'idée de recevoir chez nous, à notre table, le principal, sa femme et ses enfants, avait mis les cerveaux à l'envers. Nous éprouvions les inquiétudes et les angoisses d'un maître de maison à ses débuts. La toile cirée, les assiettes à 5 sous de la fabrique Simoneau, les couverts de cuivre plaqué, les couteaux ébréchés nous faisaient honte. On emprunta du linge et de l'argenterie en ville. On se cotisa pour avoir un vol au vent du bon faiseur, l'aubergiste de la couronne. La complaisance des externes fut mise en réquisition, car nul de nous n'avait encore osé franchir la porte absente. Une barrière morale nous arrêtait. Un quart d'heure avant le repas, petits et grands montèrent au dortoir pour laver leurs mains et lisser leurs cheveux, ce qui ne s'était jamais vu. Les maîtres d'études, eux aussi, firent un petit bout de toilette. Et quand la famille Lutzelmann entra au coup de cloche, on s'aperçut que le paletot-sac légendaire était remplacé par une redingote de drap bleu. Le cuisinier n'avait pas pris sur lui de grossir le menu réglementaire, mais il avait soigné le potage et les deux plats. Et, grâce à l'œil du maître, nous étions mieux nourris, sans qu'il en coûtât davantage. Les Lutzelmann firent honneur à notre vol au vent, et les internes dévorèrent l'énorme gâteau d'amandes pilées auquel la mère et la fille avaient donné leur soin. Il y eut des fraises pour tout le monde, et le principal les arrosa d'un joli vin framboisé qui ne faisait pas regretter l'abondance. Lorsqu'il nous vit en belle humeur, il appuya ses deux poings sur la table et nous dit « Mes enfants, on est très bien chez vous. J'y reviendrai. » Nous y reviendrons tous, dit la famille en chœur. Et vous serez toujours les bienvenus, répondit le doyen des élèves, un grand garçon de 17 ans. Le principal attendait probablement cette réponse, car il partit de là pour nous conter qu'en Angleterre, en Suisse et dans d'autres pays également civilisés, il avait vu les internes s'asseoir 2 fois par jour à la table de leur maître avec les femmes et les filles de la maison, que ce genre de vie avait 1000 avantages sans aucun inconvénient sérieux, et que d'ailleurs c'était le seul moyen de faire marcher de front l'instruction et l'éducation, ces 2 moitiés de la pédagogie. Il prononçait « pédacochie », mais nous ne nous moquions plus de son accent. À dater de ce jour, il n'y eut qu'une table dans la maison, et la famille de M. Lutzelmann devint la nôtre. La nourriture fut excellente, sans rien perdre de sa simplicité. Chacun se servit à sa guise. L'odieuse abondance disparut. Personne ne gâcha plus ni le pain ni la viande. Mais le nouveau régime eut surtout le mérite de centupler la somme de nos connaissances, de nous suggérer 1000 idées et de nous former un jugement droit. La grande affaire du principal était de nous faire causer. Sans préméditation apparente, il variait soigneusement le sujet de nos entretiens et savait, en dépliant sa serviette, quelles questions il allait mettre sur le tapis. Un jour, nous déjeunions d'histoire et nous dînions de morale. Le lendemain, il nous servait un plat d'économie politique et un hors-d'œuvre de grammaire, régal cher à tous les Français. Il voulait que petits et grands fussent à la conversation, et il avait le secret d'y intéresser tout le monde. Avant ces leçons familières, je n'avais pas sondé le vide de l'enseignement classique. Je m'étais bien demandé quelquefois comment un cancre du collège devenait avocat ou médecin distingué, tandis que certains lauréats passaient au rang de simples imbéciles. C'est la conversation de M. Lutzelmann qui m'expliqua cette contradiction apparente en me prouvant que le collège, au moins tel qu'il était de mon temps, n'enseignait absolument rien des choses de la vie. À la table du principal, un bambin de 10 ans, fort studieux et premier dans sa classe, était incapable de dire si le blé se fait avec la farine ou la farine avec le blé. Un grand gaillard de mon âge croyait que les cultivateurs fument leurs champs à l'automne en brûlant les mauvaises herbes. Il confondait la fumure et l'écobuage. Le fils d'un juge au tribunal s'escrimait vainement à définir les fonctions d'un notaire, d'un avoué, d'un avocat et d'un huissier. Aucun de nous ne connaissait la charte du royaume, et mon ami Auguste Poulard, dont le père venait d'être élu député, n'avait qu'une très vague idée du sang électoral. Tous ces jeunes scolars parlaient de leur pays et de leur temps comme des hurons fraîchement débarqués. Mais l'étranger leur était également inconnu, et sur l'Antiquité elle-même ils n'avaient que des notions vagues ou des idées fausses. Mon pauvre Lutzelmann ne possédait pas d'autre langue que le français et l'allemand. Il n'était pas fort en latin, et Philaminte ne l'eût certes pas embrassé pour le peu de grec qu'il savait. Je crois bien que décidément il n'était pas bachelier, mais il en aurait remontré sur 1000 et une affaire à toute la faculté des lettres. Il s'expliquait sur l'Antiquité comme sur les temps modernes, en homme qui a beaucoup étudié et pensé davantage. Ses jugements avaient le goût et l'épaisseur d'un consommé très réduit, très riche et très nourri. Il esquissait en peu de mots, souvent bizarres et parfois excessifs, la physionomie d'un pays, d'une nation, d'une personne ancienne ou moderne. L'originalité de son esprit allait volontiers jusqu'au paradoxe. Mais, loin d'imposer ses idées, il provoquait la contradiction. Un de mes camarades, qui avait toujours remporté le prix de mémoire, crut bien faire en lui répétant à peu près mot pour mot une diatribe enragée qu'il avait faite devant nous contre la politique de Cicéron. « Silence, perroquet !» répondit le digne homme. « Ce n'est pas mon opinion que je te demande, c'est la tienne. » Il nous tutoyait tous, grands et petits, comme ses propres enfants. Madame Lutzelmann nous tutoyait aussi, et leur fille, la grande Grédel, nous traitait également en camarades. À 14 ans, elle était presque aussi garçon que nous, et, quoiqu'elle soit grand-mère depuis longtemps, les souvenirs de cette honnête et franche cordialité sont si puissants que je ne me suis pas encore accoutumée à la regarder comme une femme. Plusieurs notables de la ville, et entre autres M. Morand, le maire, avaient pris M. Lutzelmann en amitié. Cet homme étrange, tout hérissé d'idées nouvelles, inquiéta d'abord, et ne tarda point à séduire ceux qui l'approchaient. On trouva qu'il avait du bon, on se le dit. Ce fut bientôt à qui viendrait lui demander ou lui apporter des idées. Il reçut plusieurs fois les autorités à sa table, à la nôtre. Le sous-préfet passait souvent une heure au milieu de notre travail, au jardin, ou de nos jeux dans la cour. La commission municipale qui prenait soin de nos affaires eut, avec le principal, 2 ou 3 conférences dont on vit bientôt les effets. Un matin, mon ancien ami Basset prit possession d'un coin de la cour. Il y fit creuser de grands trous et il y planta de belles pièces de charpente, un mât vertical, un mât horizontal, un portique, des barres parallèles et le reste. Monsieur Maté, capitaine des pompiers, vint donner un coup d'œil à ce gymnase et le trouva bien. Vers le même temps, un lieutenant en retraite, Monsieur Lequien, prit toutes sortes de mesures avec Michaud, le tambour de la ville, et finit par faire sceller une large plaque de fonte dans le mur du potager. Enfin, les plâtriers et les peintres en bâtiment s'emparèrent des vieilles cellules inhabitées. On fit des raccords au plafond et l'on blanchit les murs à la chaux. Et dans une même semaine, le principal inaugura un tir à la mode suisse, un gymnase et un dortoir modèle, où chaque interne était libre et maître chez lui. En nous montrant nos chambres, toutes petites, mais propres, claires et aérées, M. Lutzenmann nous dit que nous avions le droit d'en compléter l'ameublement au gré de nos familles et à leurs frais. Il ajouta que les serviteurs du collège n'étaient pas assez nombreux pour supporter le surcroît de besogne qui résultait de cette installation, mais qu'on nous savait juste et raisonnable et que nous ne refuserions certes pas de faire nos lits, de monter notre eau, de cirer nos souliers, de brosser nos habits, d'entretenir la propreté sur nous et autour de nous. D'ailleurs, les fils du principal nous donneraient l'exemple. Ce programme fut accepté d'enthousiasme. Nous étions si contents que l'héritier du richissime Poulard s'écria « Moi, monsieur, je consentirais à ramoner ma cheminée si j'en avais une. » Le bon Alsacien reprit « Pour meubler un peu mieux ces cellules, vous aurez à visiter vos familles et à courir les magasins. Faites-le quand il vous plaira. Un collège n'est pas une prison. J'ai le regret de vous apprendre que Lombard, notre ancien portier, a ouvert une auberge dans son village. Il ne sera pas remplacé. La porte qu'il gardait ne sera pas replacée. Et vous prendrez vos récréations, soit dedans, soit dehors, à votre choix. Seulement, je vous avertis que si un seul élève oubliait l'heure de la classe ou de l'étude, il remettrait le règlement en question et compromettrait la liberté de tous ses camarades. » Cette annonce, le croirait-on, nous laissa presque indifférents. Depuis que nos familles, nos correspondants, nos amis et nos simples relations fréquentaient le jardin et la cour du collège, depuis que la porte cochère était enlevée de ses gonds, depuis que le principal et les siens mangeaient à notre table, depuis surtout que des occupations actives et variées remplissaient tous les intervalles de nos études, le dedans nous intéressait peut-être plus que le dehors. Après avoir longtemps jalousé la liberté des externes, nous leur faisions envie à notre tour, et ils sollicitaient la permission de s'enfermer avec nous. On la leur accorda sans peine, et les inscriptions aux cours gratuits de gymnastique dépassèrent le chiffre de 100. Monsieur Maté dirigea les premières leçons et surveilla les suivantes. Il avait choisi pour prévôt deux jeunes pompiers alertes et intelligents. Les carabines de précision qu'on avait fait venir de Bâle furent maniées assez adroitement par une quarantaine de tireurs inexpérimentés. Comment des gamins de collège, qui n'avaient pas touché une arme de leur vie, firent-ils l'admiration du vieux Michaud et du lieutenant Lequien? Tout simplement parce que M. Lutzelmann, dans ses voyages, avait acquis une méthode. Au lieu de planter son élève à 100 mètres du but, dans des conditions où le tireur ne fait mouche que par un coup de fortune, il le plaçait d'abord à quelques pas de la cible, et, après lui avoir bien assuré les jambes et les bras, il lui faisait rectifier son tir, jusqu'à ce qu'il sût, presque infailliblement, mettre au droit. Celui qui vise bien à 10 pas ne tirera pas plus mal à 20 pas, à 30, à 60. Et pour les plus longues distances, il n'aura plus que la hausse à régler. Cet exercice nous rendit non seulement adroits, mais sages. Les accidents d'armes à feu n'arrivent guère qu'à ceux qui n'en connaissent pas le maniement et le danger. Le lieutenant, encouragé par nos premiers succès et comme électrisé par notre bon vouloir, rêvait de nous donner l'instruction militaire jusqu'à l'école de peloton exclusivement. Par malheur, les fusils de munitions lui manquaient. Et, quand même un arsenal très complaisant en eût prêté une cinquantaine, comment les ajuster à la taille de conscrits dont les plus jeunes avaient 9 ans et les plus vieux 16 ou 17? La question fut donc ajournée. Mais l'activité des élèves et des maîtres ne chôma pas pour si peu. Chaque jour nous offrait une nouvelle occupation et un nouveau sujet d'étude. On prit un essaim sur un orme. Ce fut le principe d'un rucher. Quelques graines de verre à soie, apportées par un externe et nourries par les laitues et les mûriers du jardin, commencèrent une petite magnanerie. Les animaux nous envahirent. Grâce aux dons spontanés qui arrivaient de partout, on fit une basse-cour, où les oies, les canards, les poules, les dindons, les pigeons de volière, les paons et les pintades se disputaient à coups de bec les miettes de nos repas. Quelques familles de lapins, une chèvre, 2 brebis, un cochon, furent admis au droit de cité. Il nous manquait encore des vaches et des chevaux pour compléter la ménagerie. Mais les oiseaux, les souris blanches, les couleuvres, les lézards, les cyprins dorés, les tritons, les grenouilles vertes s'ébattaient dans leurs cages ou leurs bocaux, l'aquarium n'étant pas inventé. Le principal, sa femme et ses enfants, connaissaient autrement que de réputation tous ces nouveaux pensionnaires. Ils en parlaient fort bien, quelquefois même savamment. Monsieur Lutzelmann ne craignait pas d'aller chercher un lapin ou un poulet pour le disséquer devant nous, et c'était une leçon d'anatomie. Il avait un vieux microscope, pas très puissant, mais assez bon. Il nous y faisait voir des tissus animaux ou végétaux, des cristallisations, certains liquides animés par la vie turbulente des infusoires. Lorsqu'un de nous le remerciait à la fin de ses excellentes leçons, il répondait d'un ton bourru « Je ne sais pas grand-chose. Il faudrait un professeur d'histoire naturelle. Nous ne l'avons pas. Je le remplace comme je peux. Mais ne prenez pas ça pour de la science. Non, non. » S'il eût été moins maladroit de ses mains, il aurait suppléé avec joie le professeur de dessin qui nous manquait aussi. Mais il était brouillé avec les crayons et les plumes. Et les élèves de 8e écrivaient mieux que lui. Il déplorait hautement cette infirmité et jurait que tous ses enfants sauraient dessiner et écrire. À ses yeux, ces 2 arts n'en faisaient qu'un chez tout homme complet, car le dessin est l'écriture des objets, comme l'écriture est le dessin des idées. Gredel et les 3 garçons, pour lui plaire, étaient devenus calligraphes, mais leur éducation artistique laissait beaucoup à désirer. Et pas un peintre, pas un sculpteur, pas même un architecte, sauf 2 maîtres maçons, dans la petite ville. À toute fin, pourtant, M. Lutzelmann découvrit, dans le haut quartier, à quelques portes de la maison où ma mère s'était cloîtrée, un vieux dessinateur de fabrique retiré des affaires à 72 ans avec 1000 écus de rente. Ses voisins le considéraient comme un ancien commerçant, soit qu'il se fût donné pour tel, soit que les bonnes gens de là-haut ne fissent aucune différence entre celui qui dessine les papiers peints, celui qui les fabrique et celui qui les vend. Monsieur Dussault les avait dessinés longtemps, avec quelques succès, pour plusieurs maisons de Paris. Son intérieur, très modeste, annonçait un homme de goût et un amateur distingué. Il vivait avec une petite nièce, son héritière, au milieu de vitraux anciens, de gravures précieuses, de faïences italiennes et de ces beaux meubles de la Renaissance française que les bourgeois de 1844 reléguaient sottement au grenier. Pour occuper son temps, il gravait de petites eaux-fortes que personne ne s'avisait d'acheter ni même de voir. Ce modeste vieillard tomba de très haut lorsque le principal, après avoir feuilleté ses cartons, le sollicita d'ouvrir un petit atelier au collège. Il allégua son âge, son incompétence, la très sommaire instruction qu'il avait reçue à l'école Saint-Pierre de Lyon. « Je n'ai jamais appris, disait-il, que l'ornement est la fleur. »« C'est beaucoup plus que rien, répondit M. Lutzelmann. Je n'ai jamais rêvé que mes bambins dessineraient comme Ingres, peindraient comme Delacroix ou composeraient comme Horace Vernet. Enseignez-leur seulement à se servir de leurs yeux et de leurs doigts. Qu'ils sachent voir les objets tels qu'ils sont et exprimer le relief sur une surface plane. Vous aurez fait œuvre utile, et nous ne sommes au monde que pour ça. » La place ne se rendit pas à la première sommation. Il y fallut plus d'un assaut, mais cette tête carrée de Lutzelmann avait un argument qui triomphait de toutes les résistances. « Vous ne pouvez pas refuser, puisque c'est un service gratuit. » Le petit père Dousseau apprit donc le chemin du collège. On ne viole pas impunément les saintes lois de la routine, et jamais une vérité neuve n'a fait son chemin sans accident. Les premières réformes du principal avaient été presque unanimement applaudies. Toutes les femmes se prononcèrent pour l'internat ouvert, aimable et gai. Le jardinage, la gymnastique, le tir ne soulevèrent aucune objection. Le nouveau cours de dessin fut goûté. On se réjouit de savoir que chaque pensionnaire avait sa chambre, et, sauf quelques esprits rétrogrades, ennemis déclarés de tout progrès, la ville entière rendit justice aux efforts de M. Lutzelmann. Mais cela même qui approuvait tous les détails de l'œuvre n'était pas sans prévention contre l'ensemble. Les uns disaient qu'on allait un peu loin, les autres qu'on allait un peu vite. Ils craignaient que le nombre ou la diversité des exercices ne dissipât nos jeunes esprits. Vers la fin de l'année scolaire, ce mouvement de réaction devint si vif et si pressant que le maire s'en émut. Après avoir secondé toutes les entreprises du principal, il ne put refuser de le faire comparaître devant une assemblée de pères de famille présidée par le député M. Poulard. Les mœurs de notre pays sont douces et cordiales. Un déjeuner chez M. Morand adoucit la rigueur de cette mise en jugement. Les observations et les critiques se développèrent posément, avec une bonhomie qui n'excluait pas la fermeté, et M. Poulard résuma les débats en disant « Si la ville paie sans marchander le budget du collège, ce n'est pas pour donner à ses enfants une éducation de fantaisie. » C'est pour les mettre en état de suivre les cours de rhétorique et de philosophie au Collège Royal, d'en sortir bachelier et d'aborder, sans infériorité trop sensible, les carrières civiles ou militaires sous l'égide du gouvernement. Le prévenu, notre excellent et cher Alsacien, s'était défendu assez mal au cours de la discussion. Mais après le dessert, devant sa tasse de café, lorsqu'il eut allumé la grosse pipe de porcelaine, il devint éloquent et presque poétique. Ceux qui l'ont entendu racontent qu'il fit un magnifique éloge de la jeunesse et qu'il compara le cerveau des écoliers à ses cabinets florentins, beaux petits meubles du XVIe siècle où l'on peut entasser des papiers, des bijoux, des émaux, des médailles, des pierres précieuses sans les remplir. Il y reste toujours des cases vides. Nous avions, selon lui, un pouvoir absorbant, une faculté d'assimilation que l'enseignement le plus riche et le plus varié ne pouvait ni lasser ni même satisfaire. Et le grand tort des programmes classiques était de refuser la nourriture ou de n'offrir que viande creuse à ce prodigieux appétit. « Croyez-en mon expérience, leur dit-il, un jeune homme d'esprit moyen qui apprendra 10 choses à la fois doit faire plus de progrès dans chacune de ses études que s'il s'était buté à une seule. Du reste, vos professeurs, mes chers et honorés collègues, assurent que le nouveau régime n'a fait tort ni aux Grecs ni aux Latins. L'amour-propre et l'esprit de corps les abusent peut-être, et je ne suis pas assez bon humaniste moi-même pour contrôler leur jugement. Mais j'ai trouvé un bon moyen de mesurer le niveau de nos études classiques. J'ai prié l'inspecteur d'académie d'emprunter pour nous, au Collège Royal, le texte des compositions des prix. Nos enfants ont concouru, sans le savoir, avec leurs camarades de Villevieille. Leurs copies sont là-bas. On les a corrigées et classées. J'attends le résultat aujourd'hui. Et quel qu'il soit, dût-il me condamner, soyez certains, messieurs, que je vous le ferai connaître. » L'idée de ces concours entre collèges était nouvelle alors. Tous les écoutants la trouvèrent fort bonne. Le maire seul pensa que son protégé avait commis une imprudence, car l'infériorité de nos études semblait bien établie depuis longtemps. Aussi, la surprise et la joie furent-elles au comble lorsque, 2 jours après, un pli officiel signé de l'inspecteur d'académie vint réhabiliter les élèves, les professeurs et le courageux principal. Nous avions la moitié des prix et un bon tiers des accessites. Pour ma part, j'étais le premier en vers et en version latine, et le troisième en thème grec. Le recteur avait signalé nos progrès au ministre, qui se mit en frais d'éloges pour nos maîtres et de livres dorés pour nous. À ces nouvelles, l'opinion publique se retourna sans crier gare. Notre principal fut d'autant plus populaire qu'il avait été discuté et presque menacé. Cet original, cet intrus, que nos professeurs effarés n'avaient pas encore accepté comme universitaire authentique, se trouva tout à coup en possession d'une autorité illimitée. Vous allez voir comme il en usa dans l'intérêt de ses élèves, et particulièrement pour ma fortune et mon bonheur.